ce dont on va parler aujourd'hui. On fait beaucoup de projections, on appelle ça des ciné-discussions. Et non pas des ciné-débats, parce qu'on n'a pas envie de faire des débats, on veut discuter en fait surtout, plutôt que débattre. C'est différent entre la discussion et le débat quand même.
Yes.
Ouais, l'idée, c'est pas de venir entraîner sa rhétorique. Hein. Voilà. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on présente plusieurs cycles. Et là, en ce moment, on est sur ce cycle justement, sur la répression au Pays Basque. Voilà.
Peut-être que là, on va peut-être passer la parole à Hippo.
Bah...
What do you think about it?
It's okay.
Oui, alors, on a donc samedi 8 novembre, il va y avoir le deuxième film projeté dans le cadre de ce cycle. La première projection s'est faite le 20...
Le vendredi 10 octobre, dans le cadre de la rentrée libertaire, anti-autoritaire, c'est ça.
Du Chat Noir. Et donc, le premier film en octobre, c'était un film sur la disparition forcée. Donc c'était un film qui s'appelait Histoire d'un volant, qui retrace l'histoire d'un frère qui recherche le corps de son frère en fait qui a disparu. Donc son frère qui était militant dans les commandos autonomes anticapitalistes, qui était un groupe révolutionnaire autonome, hein, vraiment du mouvement autonome, et dans cette époque, années 70, à la fin du franquisme, qui s'était réfugié au Pays Basque Nord, donc ce qu'on appelle le Pays Basque Nord, c'est le Pays Basque sous domination française. Et il a disparu, voilà. Du jour au lendemain, il a disparu. Alors, on sait plus ou moins qui sont les coupables, hein. C'est le bataillon basco-espagnol, qui sont des groupes paramilitaires franquistes, enfin fascistes, mm-hmm. avec des anciens de l'OAS, etc., enfin toute la crème, on va dire, la crème de la crème des tortionnaires, quoi.
L'OAS, on
des gens super sympas.
Oui, des gens qui étaient pour l'Algérie française. Ce qui est étonnant, c'est que c'est des gens aussi, voilà, ils vont prêter... Ils ont une forme d'internationalisme,
oui.
Les gens de l'OAS.
L'histoire du Pays Basque, c'est exactement ça, hein, de la répression au Pays Basque, c'est exactement ça. Et c'est ça aussi qui est intéressant et qu'on trouvait très pertinent d'aborder.
Alors, juste, je te laisse reprendre, excuse-moi, je t'ai perdu. Sur les disparitions foncées.
Voilà, donc c'était le premier film diffusé. Donc le frère de la victime qui apparaît dans le film devait venir, mais il a eu un empêchement. Donc du coup, on a quand même fait une contextualisation, on a fait la projection, il y a une petite discussion après. Et on s'est aperçu pendant cette discussion qu'en fait, vraiment, l'histoire du Pays Basque est très peu connue, même dans les cercles militants. Alors que je le rappelle, mais le Pays Basque, c'est vraiment à 2 heures de Toulouse. Et ce qui se passe au Pays Basque dans les années 70 a encore des répercussions aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas très loin, c'est très proche dans l'espace et le temps. Oui, on n'est pas sur un sujet qui est complètement fermé et terminé, quoi.
Et même en dehors de Toulouse, ce qui est fou dans l'histoire, là on parle du Pays Basque Nord, donc c'est peut-être des terminologies qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser ici entre le Sud et le Nord. On va dire qu'il y a une partie du Pays Basque qui est colonisée par la France, et en fait, en France, justement, c'est là où, justement, il y a ces disparitions-là forcées qui sont faites, et ce, je vous parle pas des années 70, là. Je vous parle des années 80-90. Je vous parle d'une époque quand même relativement actuelle. Et ça, c'est à côté de chez nous.
Ouais. Voilà, donc on s'est dit, peut-être que la deuxième projection, il faudrait vraiment... Là, on tenait vraiment à ce qu'il y ait une personne concernée de présente. Donc on a la chance d'avoir Nekane qui vient du coup le 8 novembre pour la projection du film, cette fois qui s'appelle Biarnash, qui veut dire donc deux souffles. Et c'est un film qui parle de l'échange entre une mère et sa fille, donc une fille qui a été incarcérée et torturée en prison. Quand on parle de torture, il y a évidemment aussi la question du genre, hein, parce qu'être une femme en prison, ça veut dire de la torture et des violences sexuelles. Donc il y a ce dialogue-là avec la mère et sa fille. Et l'idée, c'est d'avoir une contextualisation faite par Nekane. Donc Nekane
va la présenter.
Ouais. Je laisserai peut-être Aka la présenter après.
Donc elle sera là le 8 novembre.
C'est ça, elle sera là le 8 novembre.
Mm-hmm. Et donc, sur le film, tu l'as vu?
Alors, je ne l'ai pas encore vu. Je crains de le voir parce que je sais que c'est un film qui va être très dur.
Ouais.
Donc, il va falloir que je me mette le petit plaid, la petite tisane et voilà, que je le regarde un petit peu dans un petit cocon parce qu'effectivement, là, on aborde des sujets qui sont quand même extrêmement douloureux. Et encore une fois, on parle de tortures qui ne sont pas si vieilles que ça. Hein. C'est l'État espagnol a continué à torturer dans les prisons encore pendant très longtemps. De toute façon, on le sait, hein, la police tue, la police mutile, la police assassine. Donc, c'est pas un fait non plus accidentel. Donc, dans les prisons françaises aussi, hein, on a tendance à voir ça comme quelque chose lié forcément à la dictature, mais ça se passe encore aujourd'hui en France. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un viol dans un commissariat de policiers qui sont mis en cause. Donc voilà, c'est des choses qui ne sont pas accidentelles, qui font partie de la fonction même de la police. Mais du coup, là, on va vraiment se concentrer sur la question liée au Pays Basque et comment, en fait, on fait taire un peuple qui est lié à la colonisation et à l'impérialisme, en faisant taire aussi les corps, en mutilant les corps.
Tout à fait, merci. Oui, Aka.
Oui, présent. non, peut-être que tu voulais que je peux
oui,
je rappelle Nekane.
Oui, Nekane, voilà. Et après, n'hésitez pas, donc, Hippo, Akkad, voilà.
Ouais,
donc,
bien sûr. Oui, d'enchaîner, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Nekane...
qui vient le 8 novembre.
Oui, tout à fait.
Qu'on va rencontrer au 270 route de Muret. Donc, avenue de Muret.
Ouais. Nekane Tchapartegui, elle est native donc, du Pays Basque. Elle a été torturée en 1999 au Pays Basque.
Il n'y a pas si longtemps.
Il n'y a pas si longtemps que ça. Elle s'est ensuite exilée en Suisse. Actuellement, elle habite en Suisse, hein, donc c'est une personne expatriée en Suisse. Elle a la chance elle a eu le droit très récemment de pouvoir rester en Suisse parce que le gouvernement espagnol demandait son extradition pour jugement.
Il y a eu une grande lutte de soutien justement à Nekane. On en profite aussi à faire un grand big up aussi à nos amis de la radio Laura à Zurich qui l'ont extrêmement soutenue. Voilà. Grand big up.
Et donc, voilà, elle a fui en Espagne en 2007 parce qu'elle a été condamnée, en fait, à 6 ans et 9 mois de prison en Espagne. Cette peine, elle a été réduite de moitié en février 2017 hein, par la Cour nationale espagnole suite à une modification du code pénal espagnol qui diminue, et je trouve ça un peu ironique quand même, qui diminue les peines pour les crimes non violents liés au terrorisme. Parce qu'en fait, en Espagne, il faut savoir qu'il y a des lois antiterroristes et de soupçons du terrorisme très fortes.
Comme en France, hein, quand ouais. même, hein, aussi. Mais vas-y, donc en
non,
France,
non, non,
en
non,
Espagne...
non, pas du tout. Tu peux continuer. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que l'Espagne, on est quand même sur un contexte assez particulier, dans le sens, par rapport à la France. L'Espagne, donc juste pour contextualiser, on sort de la dictature de Franco en 1975. Il y a entre gros guillemets, vous ne me voyez pas faire, c'est pas très radiophonique, ouais. mais des gros guillemets, je suis en train de faire, une transition démocratique. Mm. Moi, ça me fait penser au Chili, cette histoire. Et puis, finalement...
Il y a beaucoup de liens sur la durée de la dictature, des décennies de dictature, et ensuite un passage c'est dans ça. Un côté avec un roi. C'est hallucinant.
Voilà, il y a quand même beaucoup de choses de genre. Là, le roi qui a été nommé par Franco, il y a quand même beaucoup de choses aussi qui sont restées. Il y a un tabou, une amnistie incroyable sur tous les crimes du franquisme.
Exactement.
Et il y a encore, une fascination pour Franco qui est très très forte. Le mausolée, hein, il était encore sur pied jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, hein, je vous
mausolée
le rappelle.
Franco, ouais.
On est censé avoir une loi normalement pour aller fouiller les fosses communes, ça ne se pève pas vraiment. Bref.
Il n'y a toujours pas de justice et de vérité par rapport au crime du franquisme,
voilà.
C'est évident.
Donc par rapport aux lois antiterroristes, on est dans la continuité de ça en fait. On est clairement dans cette continuité-là parce que clairement, le gaucho, il faut le désinguer, quoi, si je peux parler comme ça. Quoi. C'est un peu ça. Donc du coup, je trouve ça un petit peu ironique quand même de se dire que sa peine, elle est diminuée, bref, de moitié.
Quelle chance.
Voilà, c'est ça. Et donc du coup, elle a l'occasion de rester en Suisse, mais elle présente plusieurs choses. Elle a l'occasion notamment de présenter ce film à plusieurs opportunités et de venir témoigner. Ici de notre côté, nous, c'est vrai qu'on l'a voulu faire aussi et on le souhaite. On va mettre un point d'honneur là-dessus. Tu me reprends si j'ai tort, hein, à avoir une organisation, en tout cas, de personnes assimilées femmes à la naissance ou en tout cas de minorités de genre pour cet événement-là particulièrement et de faire un gros point d'honneur là-dessus, soit parce qu'on parle de la violence de genre et qu'on peut pas non plus. On est sur un sujet très touchy et on a envie que ça reste entre nous pour l'instant. Enfin, en tout cas, c'est ouvert à n'importe quel public, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a une grande mixité sur le public. Mais en tout cas, sur l'organisation, dans l'organisation.
Ouais, on a voulu que ce soit quand même plutôt entre femmes et minorités de genre, plutôt. Et voilà, faire attention à ces questions-là qui seront abordées pendant la diffusion du film. Je le redis, film qui ne sera pas très léger. Hein, voilà, donc faut y aller en sachant que c'est pas un sujet qui va être facile. Mais la discussion permet ça aussi, derrière. Elle permet de désamorcer, de poser des questions, d'en parler, de libérer la parole, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'on tenait vraiment à ce qu'il y ait une personne concernée qui puisse venir. Voilà, il y avait... Enfin, je crois que tu as tout dit, non, sur Nekane.
Oui, j'ai fait en gros, je pourrais dire beaucoup de choses, mais je pense qu'elle pourrait se présenter d'elle-même en soi si vous venez.
Mais c'est aussi de dire ouais. que donc, pour elle, c'est quand même important toujours de continuer à témoigner, visiblement, et que c'est aussi particulièrement difficile, j'imagine, d'aller raconter et re-raconter les souffrances que tu as déjà endurées, quoi. C'est super
c'est-à-dire
dur.
Qu'effectivement, en plus d'être survivante, en plus d'avoir un stress post-traumatique et en plus de vivre avec ça, parce qu'en fait, finalement, on est marqué à vie, on est marqué vraiment au fer rouge, si je peux me permettre de dire un truc pareil. Mais effectivement, il y a quelque chose de très fort et en parlant, en fait, en ne l'enterrant pas, elle fait énormément, elle continue sa militance, en fait. Sa militance très courageuse, en fait, de ce côté-là, qui va, du coup, faire de la prévention, entre guillemets, et va transmettre ça, et en même temps, qui va dénoncer. Donc, je veux dire,
parce que dans les crimes coloniaux et impérialistes, etc., les crimes d'État, en général, il y a aussi la question de l'oubli, du silence.
Exactement, de l'amnistie.
Voilà. Les disparitions forcées, aussi, dans la dernière projection, dont quoi on parlait, c'est ça aussi, en fait, faire disparaître, faire taire, faire... et même le langage, la langue basque a failli disparaître, hein, sous Franco, c'était interdit de parler le basque. Le fait de faire disparaître tout ça, c'est une manière, en fait, de faire disparaître les gens, de faire disparaître l'élite, d'annihiler presque des êtres humains. Donc le fait de pouvoir parler, de pouvoir témoigner, de pouvoir l'inviter, c'est aussi de se réapproprier ça. C'est un gros enjeu dans la lutte basque aujourd'hui. Hein. C'est la question de la mémoire principalement. Puisque comme je disais, en fait, il y a quand même on va dire une... Je sais pas si c'est une indifférence, mais en tout cas, c'est un sujet qui a été sur la scène internationale dans les années 70-80, parce qu'il y avait des attentats spectaculaires. Enfin voilà, il y avait un peu quand même des assassinats tous les jours. On parlait même de guerre sale à l'époque, guerre à Soucia.
Oui, et guerre sale, si je peux juste faire une parenthèse, qui d'ailleurs, c'est assez étonnant, c'est un terme... Enfin, moi, ce que je disais à Hippo à la dernière projection, donc moi, je suis plutôt référente, on va dire, torture, disparition, et voilà, ce genre de choses, parce que voilà, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais guerre sale qui est utilisée de manière tranquille au Pays Basque, alors que guerre sale, je crois que Fatima, tu le sais très bien, en Argentine, si, par exemple, ou en Amérique latine, c'est vraiment très péjoratif. Quoi.
Ouais, c'est
et voilà, et cette question justement de la mémoire, de continuer à parler de ça, c'est aussi de rappeler qu'en fait, c'est pas... ETA a déposé les armes en 2018 officiellement, enfin la dissolution c'est 2018, donc très récent, il y a encore des prisonniers politiques, hein, en 2024, on a encore 144 prisonniers politiques enfermés basques, il y en a 5 dans l'État français, il y a 3 déportés politiques, je crois qu'il y a 17 réfugiés. On va dire le summum, enfin le nombre maximal de prisonniers politiques basques, c'était en 2009, donc il y en avait 742, donc encore une fois c'est très récent. Et cette question-là, elle semble un peu oubliée, comme si on avait l'impression que bah, ça y est, c'est la paix, en fait, au Pays Basque. Bah non, en fait, c'est pas la paix, il y a encore une lutte acharnée, il y a encore une répression sur les militants et militantes basques. D'ailleurs, il y a un petit peu, en Espagne, il y a un peu cette doctrine de « todo es eta », c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es basque, tu es considéré comme un terroriste.
Et je pense l'État, de l'ETA, en plus, il y a un amalgame qui est incroyable, quoi.
Sachant qu'il n'y avait pas que ETA organisation politique, mais voilà, tout s'est concentré là-dessus.
Dire, excuse-moi, je te mets le micro, Marianne.
C'est comme si tu es palestinienne, tu es aussi terroriste.
Exactement.
Et ben oui.
On est sur les mêmes thèmes de colonisation.
Voilà, absolument. L'idée, c'est de criminaliser la lutte, en fait, de criminaliser aussi des identités ou des revendications. À partir du moment, en fait, où on sort du roman national écrit par les États-nations, donc là, l'État français ou l'État espagnol, en fait, on est déjà coupable. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi en France, hein, par rapport à l'islamophobie, etc. Mais ce côté de, à partir du moment où tu ne corresponds pas à ce roman national qui est écrit, donc c'est-à-dire une France blanche, chrétienne, etc., tu es coupable de quelque chose. Et dans l'État espagnol, il y a eu cette répression au Pays Basque aussi par rapport à ça. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans des lois espagnoles. Il y a la loi Mordaza de 2015, pareil, il y a 10 ans, donc assez récent. Il y avait la loi de la double peine, enfin voilà, il y a beaucoup de lois comme ça.
Et on parlait la dernière fois parce qu'on parlait du juge. Alors, il y a un juge très connu sur l'Argentine, parce qu'on parlait de disparition forcée, etc.
Garçon, non ?
Oui, alors tu connais le juge Garçon.
Oui, bah oui.
Mais là, le juge Garçon a fait beaucoup pour l'Argentine, justement, allait s'occuper, on va dire, des affaires en Argentine pour justement aller incriminer les dictateurs. Le juge Garçon, lui, il a complètement fait l'inverse avec les Basques.
Juste Garçon n'est pas du tout apprécié au Pays Basque. Hein. C'est quelqu'un qui a interdit des journaux, qui a interdit des radios, qui a criminalisé en fait tout ce qui était basque. Un journal qui écrivait en basque était considéré comme un journal terroriste. Enfin voilà, on avait vraiment cette idée que tout ce qui était basque était criminel. Il y a une affaire qui est très récente aussi et que je trouve est très symptomatique. voire même est très très symbolique, est un peu le symbole de cette époque. C'est en 2016, c'est le procès d'Al-Chachoun. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire.
Non, vas-y, trop pas, non. Vas-y,
En gros, c'est des jeunes qui sont... Donc, Al-Chachoun, c'est un petit village en Navarre, donc ce qu'on appelle le Pays Basque Sud. Et c'est des jeunes qui sont dans un bar en train de faire la fête. Ils croisent des gardes civils en civil. Et de là, s'ensuit une bagarre. Donc je crois qu'il y a deux gardes civils, ils ont peut-être un petit pet sur le nez, ils doivent avoir le nez qui saigne. Sauf que ça se passe au Pays Basque avec des jeunes basques. Donc en fait, c'est pas traité comme une bagarre de bar, c'est traité comme une affaire terroriste.
Ah.
On va avoir des jeunes qui vont être du coup condamnés. Alors je crois que cumuler les années de prison qui ont été demandées, je crois que c'est 365 ans ou 400, enfin c'est un truc mais démesuré.
Une
c'est démesuré.
N'importe quoi.
Mais oui, comme une bagarre. La Guardia Civile, c'est l'équivalent de notre gendarmerie. Hein. On est,
oui, c'est les militaires.
Ouais, là, on est chez les militaires. C'est ça que je veux dire quand même. Quoi. Donc imaginez, remettez-vous dans le contexte ici un peu ce que ça pourrait être. En fait, c'est complètement dingue. Je veux dire, des bastons avec des militaires, il y en a tout le temps. Quoi.
Oui, il n'y a pas de manif ou il n'y a pas des heurts, hein, quand même, malheureusement.
Voilà, et là, on parle dans un bar, enfin, un contexte qui est quand même très différent, avec des gens civils, voilà. Mmh. On est quand même sur une exagération, en fait, de tout ça qui est très, très forte.
Ouais. Oui, de criminalisation voilà, d'une identité, en fait.
C'est ça.
Et cette histoire, elle est vraiment très symptomatique, parce qu'en fait, on se retrouve avec des jeunes qui ont, je crois qu'ils avaient entre 18 et 24 ans, et qui se retrouvent condamnés à faire 12 ans de prison, parce qu'à un moment donné, ils sont battus dans un bar. Et cette affaire, elle a fait très peu de bruit en France, dans l'État français en tout cas. Beaucoup, il y a une énorme, énorme mobilisation au Pays Basque Sud, avec des manifs, avec des milliers de personnes. Enfin, même la société civile hein, s'est quand même beaucoup emparée de...
Espagnole, tu veux dire. Société civile espagnole.
Mmh, la société civile espagnole s'est beaucoup emparée de la question. Il y a eu des affrontements, parce que du coup, le maire de ce village a été aussi attaqué par l'extrême droite. Enfin voilà, on est sur... Et ça, c'est 2016. Donc voilà, c'est moins de 10 ans, c'est très récent. Donc on continue en fait à voir comme ça... Que cette répression et cette criminalisation des Basques, elle s'est pas arrêtée en fait, elle s'est pas arrêtée dans les années 80, elle s'est pas arrêtée à la fin du GAL ou des groupes paramilitaires, elle s'est pas arrêtée même à la fin de Théa, elle continue aujourd'hui, et elle continue notamment dans le fait de faire taire aussi la vérité, dans les tabous, et notamment, donc là c'est aussi ce qu'on aimerait peut-être parler pour la troisième projection, enfin on va pas s'avancer, mais...
Alors regardez vos agendas, mais il est possible que cet hiver, il y ait une troisième projection.
D'accord.
Voilà, sur les questions plutôt du GAL, donc du groupe antiterroriste de libération, qui était des groupes paramilitaires, et qui commettaient des assassinats, surtout sur le territoire français. Donc pareil avec anciens de l'OS, etc., pour justement faire taire la lutte, mais qui aujourd'hui reste un énorme tabou dans l'État français, puisqu'il y a une collaboration, hein, on savait que l'État français, donc déjà l'État espagnol, c'est officiel depuis 2020, pareil, c'est très récent, mais la CIA a déclassifié des documents, et on a pu voir sur ces documents officiels que c'est bien l'État espagnol qui a créé ces groupes paramilitaires. Mais l'État français reste encore dans cette position de « non, c'est pas nous, on savait pas, c'est l'État espagnol ». On n'était pas au courant, alors que dedans, il y avait des anciens du SAC, donc du service d'action civique de Gaulle, etc. Donc vraiment, on était sur... Il y avait une complicité, hein, même. Il y a des militants basques qui témoignent, par exemple, d'arrestations ou d'attentats ou d'assassinats, où juste avant, ils voyaient la police française passer, ou des journalistes qui étaient déjà sur place. Donc ils savaient, en fait, qu'il allait se passer quelque chose. Il y a une vraie complicité. Donc ah bon, après c'est très complexe hein, la collaboration État espagnol État français pendant ces années-là, parce qu'il y a eu Mitterrand, il y a eu après Pasqua notamment, mais en tout cas ça a été très complexe, mais il y a quand même eu une collaboration de l'État français et une impunité de l'État français, une tolérance sur ce qui s'est passé sur son territoire qui aujourd'hui est extrêmement tabou. Et il n'y a pas très longtemps, il y a des députés du Pays Basque, donc députés PS, députés de la gauche à Berthsalé, donc la gauche nationaliste basque du groupe Etxebai, qui ont lancé là un groupe de discussion, une commission sur le GAL. Donc on est dans l'extrêmement récent, mais pour justement faire la vérité sur cette histoire qui reste complètement enfouie et que, en fait, personne ne connaît, quoi.
Non, c'est clair.
D'où l'utilité de ces projections et de ce cycle donc sur la répression au Pays Basque que vous menez avec donc le cycle donc avec notamment le groupe Ciné Libertad notamment. Et puis juste le temps a filé et je pense qu'on refera des émissions il me semble parce qu'il y a plein de choses à en dire.
Oui.
Si on compare notamment avec, ça a l'air évident aujourd'hui en France qu'on puisse parler breton en Bretagne et peut-être les questions qui se posent c'est de savoir si oui ou non non, t'es vraiment en Bretagne. Mais en fait, on oublie que si effectivement il n'y a pas de centrale nucléaire en Bretagne, c'est parce qu'il y a eu des luttes.
Tout à fait, il y a des grosses luttes.
Des grosses luttes antinucléaires, et particulièrement bretonnes et en breton. Et aujourd'hui, c'est assimilé, voilà, ça passe crème. Et pareil, si ici à Toulouse, il y a un institut donc, d'études occitanes, et bah, ça ne s'est pas fait tout seul, en fait. Hein. Ça a été toutes des luttes qui ont duré, mais des décennies et des décennies. Alors, je vous laisse l'un et l'autre. Donc, le mot de la fin, s'il vous plaît, parce que, comme je sais que vous devez partir, oui. Et après, on a nos autres amis qui vont enchaîner avec le sujet suivant.
Bah voilà, écoutez, moi, en tout cas, je vous encourage à venir nous rejoindre, justement, samedi 8 novembre. À partir de 19h au Chat Noir. Donc, vous rentrez à la bibliothèque, c'est en bas. La projection, il y a un accès PMR si vous le souhaitez. Voilà, il y aura.
Portion de mobilité réduite.
Exactement, donc, c'est possible. Il y a des grignotages qui a prix libre sur place. Il y a aussi des softs à prix libre sur place. Voilà, de quoi se restaurer pendant ce moment-là, en tout cas, si vous n'avez pas le ventre noué. Voilà.
Et peut-être manger un petit bout avant.
Ouais, on encourage énormément les gens à prendre une petite assiette pendant la projection et de grignoter pendant la projection. C'est toujours agréable parce qu'on ne peut pas faire ça au cinéma spécialement. Donc voilà.
Il y a le droit.
Et en tout cas, voilà, avec l'intervention de Nekané, nous, on sera également là. On assurera la traduction. En fait, de Nekané au français. Mmh. Et puis voilà.
Voilà. Hippo.
Bah, j'ai envie de dire venez, etori, hein, comme on dit en basque. Et vraiment, ça va être très intéressant. Et si vous pouvez pas être là, ben n'hésitez pas à venir à la prochaine projection.
Tout à fait. En tout cas, vous pouvez retrouver, bien entendu, sur nos médias préférés, c'est-à-dire Yatta et Démosphère, toutes les informations. Vous pouvez également retrouver en papier le programme de chaque mois au Chat Noir. Vous le retrouvez également sur le site du Chat Noir. C'est auchatnoir.noblogs.org, si je ne m'abuse pas. Il me semble que...
On le mettra dans le podcast.
Voilà, ouais, c'est ça. T'inquiète. Il me semble que là, si vous avez besoin de nous écrire, en tout cas, au Chat Noir, c'est toulouserevolution@riseup.net. Voilà. Et sinon, n'hésitez pas à passer au moment de permanence d'ouverture du Chat Noir. Tout est écrit également sur notre site internet.
Alors, avant que de se quitter, il y a peut-être une question dans un sens et peut-être il y en aura une dans l'autre. Alors, donc déjà, Jean-Pierre.
Oui, je voudrais tout d'abord saluer le travail fait et le travail de mémoire qui est fait, parce que je pense que c'est plus que jamais important pour ne pas revivre les tragédies. Et quand je dis plus important aujourd'hui d'actualité, puisque quand on voit que les oligarques, donc mes milliardaires, sont en train de prendre le contrôle de tous les médias, et avec ce qu'ils développent dans leur idéologie aujourd'hui, qui remettent en cause même, je dirais, l'histoire en tant que telle, je pense que c'est plus que jamais d'actualité de faire remonter toutes ces histoires du vécu, et qui nous permettent, je pense, de les contrer à travers la fake news, mais également de pouvoir ne pas revivre ces moments tragiques que nous avons tous subis, à quelque endroit que ce soit.
Tout à fait. Moi, je dirais que la mémoire, c'est quelque chose de très important, en général, pour l'humanité, parce que la mémoire, elle nous permet, en fait, de comprendre notre passé pour s'ancrer dans notre présent et ensuite se diffuser dans le futur. C'est pas de moi, c'est de Paul Ricoeur. Hein.
Mais il y a aussi la question aussi de l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et je pense que c'est très important qu'on écrive notre propre histoire.
Oui. Et il ne faut pas hésiter en tant que militant et militante. On a tendance à pas faire assez de notre propre mémoire.
Et maintenant, guise de transition, allez, ça va bouger en basque.